Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi, un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait, le pari, il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe.
Maë Burla.
Chaque enfant a le droit d'apprendre et de progresser dans un environnement scolaire adapté à ses besoins. C'est là le principe de l'école inclusive. Depuis 2005, garantir l'accès à l'éducation pour tous les élèves, quels que soient leurs besoins spécifiques, leurs différences ou leur handicap. Les ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, ont été créées dans le cadre de cette démarche pour l'école inclusive, venant remplacer les anciens dispositifs des CLIS et UPI dans le premier et second degré. Ce dispositif, créé en 2010, permet l'accompagnement dans les écoles, collèges et lycées des élèves en situation de handicap en leur permettant d'avoir accès à une scolarité adaptée à leurs besoins tout en favorisant leur inclusion dans une classe ordinaire. Le collège Jacques Duclos, à Vaux-en-Velin, chef de file du réseau d'éducation prioritaire renforcé dit REP+, de la circonscription de Vaux 1, a mis en place un dispositif ULIS. Dans ce collège, les élèves accueillis dans le dispositif ULIS présentent soit des TFC, troubles des fonctions cognitives ou mentales, TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, TED, troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous propose d'aller à la rencontre des professeurs, accompagnantes et élèves de l'ULIS du collège Jacques Duclos.
Là, pour commencer, juste, on va profiter de la présence de Madame Burla aujourd'hui pour causer des ULIS ensemble. Est-ce que même vous sauriez me dire qu'est-ce que c'est que le dispositif ULIS ?
Voilà, oui, l'ULIS qu'on connaît, c'est le ULIS là. Homer là, le.
Non, non, alors. Alors, non, tu comprends avec l'Odyssée ? Oui, il y a ULIS, l'Odyssée, mais ULIS au collège.
Ah, c'est pour. Oui, je connais, c'est pour ceux qui ne savent pas comment parler.
En fait, ça dépend, soit ils viennent d'autres pays.
Alors, tu confonds les pays de ZA et ULIS ?
Non, en fait, il y en a, ils viennent d'autres pays, mais ouais. Ils sont quand même en ULIS.
Oui, ça d'accord, ok.
Et ULIS, c'est une prof qui les aide, qui vient dans leur cours aussi.
Ouais.
Et bah, qui les aide et.
Okay. Ils vont toujours m'aider.
Parce qu'ils ont des difficultés dans certaines matières.
Je suis Myriam Bouvier, je suis professeure des écoles du premier degré et enseignante dans le dispositif ULIS du collège Jacques Duclos. Et j'ai pour mission aussi d'en être la coordonnatrice. Alors, un dispositif ULIS, ULIS, ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ce n'est pas une classe. C'est un dispositif qui vient enrichir, on va dire, l'offre de scolarité proposée par un collège. Pour être inscrit dans le dispositif ULIS, il faut que les élèves bénéficient d'une reconnaissance de handicap par la MDPH et qu'ils fournissent un certain nombre de bilans attestant de leurs besoins en termes d'accompagnement du dispositif. La MDPH, c'est la maison qui centralise les dossiers des personnes handicapées de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et qui va établir la reconnaissance du handicap et après ouvrir les droits de ces personnes aux compensations. Et le dispositif ULIS fait partie de ces compensations. Les élèves du dispositif sont des élèves inscrits dans les classes et à leur emploi du temps, ils bénéficient de quelques heures au cours desquelles ils reviennent travailler dans le dispositif sur bien souvent, c'est les mathématiques et le français, selon leurs besoins. Certains viennent seulement en mathématiques, d'autres viennent seulement en français, d'autres viennent pour les deux. Et à côté de ça, ils ont aussi ce qu'on appelle des heures de suivi de cours. C'est-à-dire qu'on va reprendre des points de la scolarité dans d'autres matières, histoire géo, anglais, espagnol, sciences, tout ce qui peut leur poser problème. Et on va les aider à synthétiser les informations importantes, reprendre des points pour les révisions et aussi un accompagnement aux devoirs.
Est-ce que vous avez capté un petit peu comment ils s'organisent l'emploi du temps, par exemple, de Rachid Abdelhakim, comment ils s'organisent?
En fait, les matières où ils sont mal, comme par exemple Rachid, français, il n'est pas tout le temps là, il est avec sa prof.
Ouais.
Histoire aussi, et maths aussi, maths, il n'est jamais là.
Je m'appelle Rachid, je suis en 3e 1, j'ai 15 ans, bientôt 16 ans. En 6e, je suis arrivé en ULIS, ça a passé bien, parce que ULIS, j'ai commencé depuis un CE2. Après, je ne connais pas personne, j'ai commencé tout le monde, je vais être avec les amis, avec les autres, voilà. En ULIS, je passe très bien avec Madame Bourrier. Elle m'explique bien les mathématiques. Moi, j'explique bien. Après, Adelakine, il sait faire. C'est intelligent, Adelakine, le maths.
Je m'appelle Adelakine, j'ai 15 ans. Et depuis la 6e, je suis en Ulysse. C'est un dispositif pour aider les gens en difficulté. Par rapport à mes difficultés, j'ai eu la dyslexie, dysorthographique, et c'est tout.
Et moi, j'arrive pas trop à parler en français, mais mets-toi en français pour parler.
Et tu t'es tout de suite senti bien, toi, en Ulysse ?
Oui, très bien. Moi, ça me stresse pas.
Je m'engage auprès d'eux. D'accord. C'est seulement ça l'engagement ? Qui est au CVC ici, Rachid ? Toi, t'es au CVC. Est-ce que c'était obligatoire d'être au CVC ?
C'était une obligation ? Les gens t'ont dit, t'es obligé Rachid d'aller au CVC ?
Non.
Non.
T'as choisi d'y aller. Explique-nous.
Je veux être participé pour aider le collège.
Du coup, ici, est-ce que vous entendez que Rachid s'est engagé dans la vie du collège ?
Oui.
Oui ou non ?
Oui.
Ouais. Alors, si vous deviez me donner des synonymes.
Alors, moi, je m'appelle Justine Vernier, je suis professeure certifiée de lettres modernes. J'enseigne depuis 2017 et je suis au Collège Jacques Duclos depuis 2018. Je suis professeure principale de 6e, je suis référente web radio, professeure de théâtre et coordonnatrice de Réseau Rep+.
Donc, moi, c'est Romain Védrenne, je suis professeur de technologie. C'est ma deuxième année dans ce collège, le Collège Jacques Duclos. Je suis enseignant depuis 17 ans.
Et moi, c'est Benoît Auclair, je suis professeur d'histoire-géographie et d'EMC au Collège Jacques Duclos depuis, c'est ma troisième année ici, et j'enseigne depuis 4 ans. Et je suis également professeur principal de 6e depuis 2 ans et référent web radio.
En français, du coup, les élèves qui sont pris en charge par le dispositif Ulysse sont très souvent suivis par le biais du dispositif sur les heures nombreuses de français, en tout cas les premières années, 6e, 5e essentiellement, sous forme de suivi de cours. C'est-à-dire qu'il y a des reprises au niveau des connaissances à aborder pour étayer les compétences qui sont celles de cycle 3, essentiellement d'un point de vue de lecture et d'écriture, pour aborder les questions de consignes, par exemple, qui sont nécessaires dans toutes les autres disciplines.
Pour ma part, en technologie, en tout cas, ils sont souvent intégrés parce que c'est une matière où des élèves en difficulté dans d'autres disciplines peuvent se retrouver en réussite en technologie et du coup, très souvent avec les autres élèves de la classe en technologie.
Et pareil, en histoire-géo, les élèves sont plutôt inclus assez tôt en fait, dans la scolarité. Je n'ai pas mal en lien avec l'enseignante qui coordonne le dispositif Ulysse de l'établissement. Puisque du coup, on discute en amont un petit peu de la progression qu'on va avoir sur l'année, des attendus qu'on va avoir auprès des élèves, quels aménagements on va mettre en place. Et ça permet, comme le disait Madame Vernier, de faire un peu des reprises de cours.
Les points qui peuvent être faits avec la coordonnatrice Ulysse en tant que professeur principal, par exemple, pour donner un exemple précis, un enfant qui va être en inclusion sur les heures de français, les 5 heures au début de l'année, on choisit de se dire « Ok, on y va, on a discuté avec la coordo Ulysse de primaire ». Il est intégré il est dans la classe de référence pendant les 5 heures. Et puis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on s'aperçoit que l'enfant, en fait, il y a une réelle problématique de lecture. En fait, tout simplement, il est non lecteur. Parce qu'il peut avoir eu des difficultés à s'intégrer dans le collège, une petite panique ou quoi, et en fait, il a perdu ses fondamentaux. Ce sont des choses qui sont arrivées. Et bien, à ce moment-là, en fait, le professeur principal, enfin, là où ça m'est arrivé, je me suis tournée vers la coordo, lui disant, on va pas lui faire subir 5 heures de littérature et de grammaire en classe en inclusion. Il faut vraiment qu'il passe 4 heures en suivi de cours en Ulysse pour rattraper des bases de lecture, mais des bases de base pour aborder le cycle 3 plus sereinement par la suite. Et pour le coup, je l'intègre sur des temps de langue, vocabulaire, grammaire spécifique, une heure par semaine. Et ce qui fait que le reste du temps, il est en suivi de cours où elle surallège l'enseignement et ça permet en fait à l'élève de ne pas être en surcharge et de ne pas se retrouver en situation d'anxiété en fait. Donc ça, c'est des temps où on est vraiment en lien avec la coordo et où on échange à ce propos, quoi.
J'ai essayé de partir d'un document qui nous est demandé pour chaque élève, un MOPS, mise en œuvre du projet personnalisé de scolarité. Et j'ai essayé d'en tirer un document de synthèse sur lequel j'ai détaillé les points d'appui, les difficultés, les besoins des élèves. Et ça, je l'ai transmis à tous les profs d'une classe donnée pour qu'ils puissent un peu prendre connaissance de l'élève. Parmi mes missions, il y a aussi d'être une personne ressource sur les besoins spécifiques et les adaptations qui peuvent être proposées à l'élève. Après, il se trouve qu'au collège Jacques Duclos, le dispositif fonctionne quand même depuis de nombreuses années. La personne que je remplace était en poste depuis 5 ans et je crois que le dispositif existait aussi avant elle. Et ça se sent vraiment dans la manière de fonctionner des équipes. C'est-à-dire que pour ce que j'ai pu observer au début de l'année, il arrive que le prof, quand il distribue ses fiches d'exercice, eh ben, il y a une pile avec exercices adaptés pour les élèves Ulysse ou les élèves à besoins particuliers. Donc ça, ça a été vraiment une bonne surprise.
Moi, ça m'est arrivé de faire des séances en co-animation avec la coordinatrice Ulysse par le passé. C'est-à-dire de décider que bah, cette séance-là, on va la mener ensemble. En fait, un petit peu aussi tester une séance quoi, en disant bah, en fait, c'est quoi les écueils qu'on va rencontrer avec les élèves du dispositif sur telle séance. C'est quoi les points un peu saillants en termes de problématiques, sur quoi ils vont buter particulièrement. Et c'est bien d'avoir un regard double comme ça, d'avoir deux adultes dans la salle pour un peu perfectionner la séance.
Elle, ce genre de co-animation, ça lui sert aussi, je pense, à avoir les élèves dans le contexte de la classe et donc à voir comment ils sont intégrés dans la classe, comment ils participent, et ce qui est différent de quand ils sont en tout petit groupe avec elle, quoi.
Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer, alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Il a peint un truc pour les... comme une maison. Il va le crocher sur l'arbre, après il va peindre avec le pinceau. Après, comme il a un tableau pour chanter.
C'est quoi son but pour être ici?
C'est chanter.
Alors, de faire chanter l'oiseau, je suis d'accord. Et au début, dans la peinture, il va peindre, tu dis, tu as raison, hein, il va peindre une cage pour attirer qui?
L'oiseau.
Ouais. Et à la fin, est-ce qu'il veut le garder dans la cage, l'oiseau?
Non.
Il veut faire quoi, l'oiseau?
Il va sortir. Il va chanter.
Ouais, parce qu'il veut que l'oiseau, il soit quoi? Il soit enfermé?
Non, il reste dans la cage, il ne veut pas chanter.
Non. Alors du coup, l'oiseau, il a besoin de faire quoi?
Sortir.
Sortir. Pour être
libre.
D'un point de vue pédagogique, le travail de fond, c'est vraiment de veiller à ce que l'enfant prenne connaissance de ses difficultés, qu'il puisse les apprivoiser et qu'ensuite, en classe, il puisse être à même de progresser à la même vitesse que les autres, malgré les difficultés qui sont les siennes.
Quand on est, par exemple, dans une évaluation de géographie, on va dire, avec un texte documentaire à analyser, plutôt que d'avoir des questions très ouvertes, ça peut être un questionnaire à choix multiples. Donc comme ça, ben, le jeune, il va trouver la réponse parmi celles qui sont proposées et ça lui demandera moins de faire un effort de synthèse sur sa lecture. Ça peut être de proposer un exercice à trous aussi, où il n'y aura que quelques mots à écrire plutôt que des phrases entières.
En activité, bon, en fait, ça va vraiment être du suivi personnalisé, de l'aide à la lecture de consignes. Beaucoup, moi, je trouve, de passages à l'oral, en fait. Parfois, on va plutôt demander à l'élève de faire l'exercice à l'oral, puis nous, après, on va faire l'écrit, par exemple, nous-mêmes. Puis des fois, il y a aussi un peu un enjeu aussi de savoir où est-ce qu'on positionne les élèves dans la classe. Par exemple, moi, je sais qu'en histoire-géo, c'est pratique, ils sont devant moi. Ça permet que, pendant que les autres élèves sont en autonomie sur leur activité, moi, je peux travailler avec ces élèves-là plus facilement et vraiment les avoir directement le cahier sous la main, quoi.
Un point de difficulté que j'allais soulever, il y a une discontinuité. Alors là, je parle pour le français, par exemple. En sixième, pour être très précis, on est sur 5 heures d'enseignement de français. Les élèves vont parfois être inclus 1 à 2 heures en classe de référence. Ce qui fait que, du coup, l'idée, c'est de veiller à ce qu'il y ait des espèces de séances un petit peu décrochées pour leur permettre de ne pas arriver au milieu d'une séquence et d'être un petit peu perdu. Parce que même si la professeure référente travaille sur la séquence en question, il y a des aménagements qui font que tous les textes ne sont pas travaillés. Donc l'idée, c'est d'essayer de penser en pédagogie de projet ou en pédagogie de séance décrochée pour permettre à l'élève d'arriver sur un point dans lequel il ne sera pas perdu. Nous, on pense notre continuité pédagogique en prenant en considération le fait qu'il y a des élèves inclus dans le dispositif Ulysse dans la classe de référence. Il faut toujours avoir ça en tête pour veiller à l'aménagement du contenu, mais l'aménagement au long cours également.
En technologie, c'est un peu différent parce qu'on voit les élèves qu'une ou deux fois par semaine, donc ceux qui sont inclus, ils sont tout le temps inclus. C'est très variable d'un élève à l'autre. Il y en a certains qui vont pas du tout avoir besoin d'aide dans cette discipline, et puis d'autres pour lesquels il va falloir beaucoup plus individualiser le travail et pour trouver où ça coince. Donc ça, et c'est vraiment dans ce côté personnalisation du cours et de ce qu'on propose qu'il va y avoir un travail important pour les élèves.
Ouais, je rejoins Monsieur Védrenne sur la question de l'histoire géo. C'est un peu pareil parce que les élèves sont là tous les cours, en fait. Et la question, c'est plus de savoir comment est-ce que, du coup, l'enseignante coordinatrice d'Ulysse va pouvoir faire le lien après, en reprise des cours. Des fois, ça va être, par exemple, de mettre en place des ressources qui seront spécifiquement dédiées à ces élèves-là, des lexiques. Et nous, vraiment, l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à ce que le cahier, qui est l'élément un peu central du cours, qui va naviguer entre le regroupement Ulysse et la classe d'histoire géo, soit le plus complet possible pour qu'on puisse arriver à s'y retrouver.
L'adaptation principale du dispositif Ulysse, c'est l'effectif. C'est-à-dire que quand ils viennent travailler ici, ils sont beaucoup moins nombreux. Le cadre aussi de travail est plus souple. Donc là, ils savent qu'il y aura moins de rigidité sur les exigences d'attention, moins de sources aussi de distraction, puisqu'ils sont moins nombreux. Et le rythme aussi est beaucoup plus lent. À la fois beaucoup plus lent, et à la fois, comme ils sont moins nombreux, on est complètement centré sur eux. Donc l'efficacité du travail fourni est décuplée par rapport à ce qu'ils peuvent faire en classe. Moi, j'ai en tête là un élève qui, quand je l'observais en cours de maths, il était totalement passif, alors que quand on passe dans le dispositif, entre le calme, l'accompagnement individualisé et les outils auxquels il peut avoir accès, table de multiplication, tableau de numération, calculatrice, eh bien, il arrive à faire les exercices.
Madame Bouvier, comme j'ai un contrôle, et j'arrive pas à ça, j'ai des liens, tu peux m'expliquer ça. Après, elle ne me donne pas la réponse. Elle m'explique ça, après je peux faire tout seul et j'arrive pas, je passe l'autre.
Bah, le travail se passe bien. Par exemple, des fois, on regarde des vidéos pour expliquer, etc. Ça se passe très bien. C'est que explique bien et ça prend bien le temps d'expliquer pour comparer en cours. Moi, personnellement, je travaille les mathématiques et il y a une heure où je peux rattraper, par exemple, des cours quand j'étais pas là.
Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, d'autres types d'aides qu'ils peuvent avoir, les Ulysse ?
Bah, les profs, déjà. Madame Bégou.
Ouais, Madame Bégou, c'est quoi son statut ? C'est quoi son travail ?
C'est des aides.
Non, le nom, c'est...
Aide-soignant.
SP, non... Aide, non, je sais pas comment on dit.
AED. Non,
AED,
c'est les surveillances. AED.
Je suis Madame Bégou Patricia. Je travaille au collège Duclos depuis 2015 ou 2016. Je suis AESH. AESH, ça signifie accompagnant des élèves en situation de handicap. J'ai dû commencer en 2008 ou 2009, donc ça fait une paire d'années. J'étais en école primaire et là, je suis au collège depuis 2015, pardon. Alors, mon rôle est d'accompagner les élèves qui ont une notification de la MDPH, la maison pour les personnes en situation de handicap. J'accompagne ces élèves principalement dans les matières comme les maths, le français, l'histoire géo, les matières scientifiques et parfois l'anglais ou les langues, enfin, LV1 ou LV2. Alors, donc je relis.
Je rajoute.
Placez ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois. Donc il faut que tu fasses un arbre.
Il va le crocher sur un arbre.
Placez ensuite la toile contre un arbre, à côté de l'arbre.
Ah, à côté de l'arbre. Par terre.
Contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt.
Ah, c'est...
Et après, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire. Donc, il y aura quelqu'un caché derrière l'arbre. J'accompagne donc les élèves en classe. 3 élèves de 5e 1, 2 élèves de 3e 1, 1 élève en 5e 4, 2 autres élèves en 6e 5. Donc, je m'assois à côté de l'élève. Quand il y a un seul élève, c'est relativement simple. Quand il y a 2 ou 3 élèves, ben, il faut arriver à se partager, enfin, à être... en même temps attentif à l'un et à l'autre. Selon les besoins de l'élève, je vais écrire à sa place ou je vais simplement l'aider à se concentrer, à se recentrer sur la tâche, expliciter la consigne quand il y a un exercice à faire, décortiquer l'exercice en fait. Parce qu'il y a des élèves parfois qui n'arrivent pas quand il y a une double consigne. Par exemple, je vais dire en sixième, ça va être souligner le verbe, entourer le sujet. Et ils arrivent à faire l'un ou l'autre, ils n'arrivent pas à combiner quand il y a une double tâche. Donc, ça va être déjà, on repère le verbe et ensuite, on va identifier le sujet dans la phrase, enfin, voilà, étape par étape.
Oui.
Comment ça se passe?
Ça se passe bien, mais comme moi, chaque fois, je fatigue un peu, recopier à ma place. Je comprends pas. Elle peut m'expliquer pour écrire après. Moi, je copie pour le bédon.
Toujours la même depuis la sixième. Du coup, avec moi, avec ma dyslexie, l'écriture, c'est pas là. Je dicte et on m'écrit ma place. Et elle écrit le cours et moi, je tape sur l'ordinateur. Et pour les questions, par exemple, elle me donne des idées de phrases et après, j'écris.
Alors, c'est vrai qu'au début de l'année, il faut être accepté par l'élève parce que certains élèves n'acceptent pas vraiment l'aide humaine, enfin l'accompagnement par la ESH. Et il faut arriver à créer une relation de confiance. Parfois, je peux me lever et circuler dans la classe quand j'ai un élève notifié pour pas être en permanence à côté de lui et qui se sente effectivement qu'il y a une petite pression. Enfin, je peux circuler dans la classe, aller voir d'autres élèves. Et ça montre aussi qu'il n'est pas le seul, enfin, que je peux aider d'autres élèves que cet élève avec la notification. Après, ce qui est bien ici au collège, c'est que je connais les élèves depuis plusieurs années. Par exemple, les élèves de 3e 1, je les accompagnais en 5e, 4e, 3e. Donc, on arrive à faire un travail sur le long terme. Et il y a une relation de confiance qui se noue. On les voit évoluer aussi, on les voit grandir. Globalement, il faut avoir de la patience. Il faut de la bienveillance, être à l'écoute, avoir de l'empathie pour l'élève, parce qu'ils ont parfois des difficultés scolaires qui vont aussi au-delà du cercle du collège.
Je vais demander à Madame Verdier pour toi, Lucen, qu'il ne soit pas trop difficile.
Oui. J'ai pris le manuel, mais je veux prendre quel texte qui soit abordable, pas qu'il soit
accessible. Il faudrait qu'on en prenne une. Moi, j'aimerais bien un Death Note, par exemple, ce serait sympa.
Je sais ce qu'on va faire.
Bouge pas.
Elle te cherche un peu.
D'accord. La lecture.
Oui, oui, oui.
Et puis j'aimerais bien qu'il le lise aussi. Pour voir s'il arrive à écrire.
D'accord.
Mais je reviens dans 5 minutes quand il aura un peu perdu la peine.
On le lit ensemble, après qu'il lit tout seul.
On s'y était vraiment. Oui.
Tu veux commencer?
C'est dur, hein.
Je te suis avec les règles. Les AESH sont bien acceptés par l'équipe enseignante. Ce qui est un peu difficile, c'est quand on est dans les niveaux 4e et 3e, il faut à la fois être fort en maths, en français, en sciences, en techno. Parfois, j'accompagne en technologie. Donc, quand je ne sais pas ou quand j'ai une question, il m'arrive de dire parfois, je vais demander au professeur parce que sur telle activité, j'ai pas la réponse. Comme ce matin, par exemple, avec Madame Vernier, je lui ai demandé quel texte proposer à Rachid pour pas le mettre en difficulté. Et donc, elle lui a proposé un poème, L'oiseau en cage.
On sent une énorme différence entre les moments où la ESH est présente et celle où elle ne l'est pas. Et c'est aussi une adaptation qui est vraiment importante pour ces élèves.
Elles sont vraiment très professionnelles et elles mettent un point d'honneur à bien connaître les enfants qu'elles suivent. Elles sont capables de repérer de la fatigabilité sur certaines heures particulières, en fonction des particularités des enfants, d'être plus présentes à des instants T. Elles savent, par exemple, que sur les dernières heures, certains enfants vont avoir la nécessité absolue de prise de notes. Donc, ce sont les AESH qui vont prendre les notes à leur place parce que l'enfant est en situation de fatigabilité avancée. Et ça, du coup, c'est vraiment leur savoir-faire et leur connaissance de l'enfant qui, pour nous, est très bénéfique aussi parce qu'il y a des éléments à côté desquels on peut passer si on n'a pas les enfants sur ces heures-ci. On n'est pas nécessairement assis à côté toutes les heures, donc il y a des choses qu'on peut ne pas connaître et elles peuvent être éclairantes sur la question. Du coup, c'est vraiment des collègues phares sur l'accompagnement de ces enfants. Un phénomène qui est assez intéressant et plutôt chouette dans l'établissement, c'est qu'il y a une continuité d'année en année au niveau des AESH, donc on commence à bien les connaître. Moi, pour ma part, il y a certaines collègues AESH qui interviennent dans ma classe depuis 6 ans, donc les séquences, elles leur sont à peu près connues. Mon mode de fonctionnement également. Donc c'est un point qui est plutôt de force. Elles savent quelles sont mes méthodes de travail et quelles sont mes attentes parce qu'on se connaît. Je pense que pour certains collègues qui débarquent, c'est assez compliqué parce que ce qui est bénéfique, c'est la présence d'un autre adulte. Mais du coup, en termes de méthodes de travail, elles doivent s'adapter systématiquement à de nouvelles personnes, de nouveaux modes de fonctionnement. Et donc non, on n'a pas le temps de travailler en amont. Elles ont des quotités horaires qui sont de 26 heures hebdomadaires, les AESH, et donc elles circulent entre les collègues. Elles le font très bien, hein. Elles s'adaptent, elles ont une capacité d'adaptabilité qui est assez conséquente. Mais c'est un temps qui nous est pas donné.
Alors c'est vrai qu'on a quelques minutes parfois en début de cours où le professeur peut me dire « voilà tel élève, il faudrait axer l'aide sur telle et telle partie, sur la lecture ». Voilà, mais sinon on a des temps d'échange informels avec les enseignants, au début, en fin de cours ou parfois dans la salle des professeurs. Au moment des pauses.
Dans mon travail avec les AESH, ce que j'aurais souhaité et ce que je souhaite pour l'avenir et que je ferai en sorte que ça se mette en place, c'est d'avoir une heure de coordination au moins tous les 15 jours avec elles pour faire des points élèves et puis peut-être rebaliser des points d'attention à avoir avec chacun. Mais cette année, pour le moment, ça n'a pas lieu. Et c'est vrai que les AESH, pour nous, les coordonnées, sont un peu nos yeux au niveau des classes, puisque c'est elles qui sont vraiment dans le vif avec les professeurs. Et ouais, leur regard est précieux pour avoir des retours, quoi.
Et nous, par exemple, les profs, on fait quoi, nous, à votre avis, pour ces élèves?
On fait des trucs aménagés.
Ouais. C'est quoi un truc aménagé?
Les trucs faciles, genre...
Ouais, voilà. Les trucs difficiles
en fait,
qu'ils avaient.
Par exemple, c'est pas plus facile, on va alléger parfois l'écriture. Mais c'est pas forcément, en fait, c'est pas forcément plus facile, c'est adapter la difficulté. Toi, t'as été témoin de ce truc-là, quand même, de les aménagements, les évaluations plus faciles, etc. J'ai l'impression que les élèves, ouais, ils ont un peu de mal à comprendre qu'en fait, c'est pas des modes d'évaluation plus faciles que l'autre, mais que, enfin, on aménage le niveau d'évaluation, parce qu'ils ont la méritocratie chevillée au corps et qu'ils ont l'impression qu'ils donnent tout, et que c'est pas normal que les autres ils aient des trucs en plus. Mais bon, à part une fois qu'on remet les choses à plat, etc., généralement, en fait, il n'y a pas du tout de problème de stigmatisation, etc.
C'est quand ils se trouvent en situation de difficulté, plus que de l'injustice, si finalement, moi aussi, j'aimerais en faire moins, mais quand on leur explique que l'évaluation, elle est aussi difficile pour leurs camarades en situation de handicap que la leur, qui n'est pas aménagée. En fait, ils se rendent compte que ça tourne en rond, leur histoire.
Je trouve que les élèves du dispositif sont très, très bien intégrés dans les classes. Quand je les vois sortir, ils saluent des camarades. Vraiment, ils sont acceptés tels qu'ils sont. Moi, je trouve que c'est une grande réussite, ce qui se vit ici au niveau de l'inclusion scolaire, justement.
Bon, la première fois où j'ai été en UI, ça a commencé depuis la CE2. Ça s'est super bien passé. On m'a expliqué, on m'a aidé, etc. Et voilà. C'était l'école Jean Moulin à Villeurbanne.
Et ça te plaît aussi d'être en classe avec tout le reste de tes camarades?
Ouais, tellement j'aime. Ouais. En groupe, voilà.
Je vous le dirai mieux que moi, mais eux, vraiment, ce qu'ils ont envie, c'est d'être avec les copains, quoi. Je crois que c'est l'aspect sociabilité, se sentir un élève à part entière de sa classe d'âge. Ils le revendiquent beaucoup. Et il y en a certains d'ailleurs qui ne veulent pas, ils ont une notification Ulysse, mais ils ne veulent pas venir travailler dans le dispositif parce que je pense qu'ils ont honte. Ils sont encore dans le déni de leurs difficultés.
Tous les enfants ne vivent pas de la même façon le fait d'appartenir au dispositif. C'est que l'enfant qui va comprendre les enjeux, qui s'est complètement approprié les codes du dispositif, qui comprend qu'en fait, il y a des adultes qui sont présents pour l'accompagner et va vivre ce moment-là comme étant quelque chose de positif, va voir la classe d'Ulysse comme étant un lieu de ressources et un petit cocon dans lequel en fait, il est considéré pleinement et accompagné. Mais il existe aussi, il ne faut pas le cacher, hein, des élèves qui sont en défiance complète vis-à-vis du dispositif, qui, je pense, sont en... Alors, souffrance serait un grand terme, mais souffrance au début, je pense quand même, au moment où ils intègrent le dispositif, parce qu'eux le vivent comme une exclusion. Il faut expliciter quand même le phénomène d'inclusion. Ils le vivent comme une exclusion de la classe. C'est quelque chose qu'on a retrouvé là avec les groupes de besoins. C'est ce phénomène d'être sorti du groupe classe. Et en fait, ces enfants-là, parfois, ils en souffrent un petit peu de se dire « mais en fait, moi, à ce moment-là, je ne suis pas avec les autres, je ne vais pas voir les mêmes choses ». Et on les voit régulièrement revenir dans la classe pour poser des questions, de savoir ce qu'ils ont loupé. Comme si, en fait, il y avait une vraie fracture et une vraie discontinuité.
Je crois que c'est un chemin et qu'il faut les accompagner tout au long de ce chemin sans les brutaliser dans la manière de leur asséner que si ils sont handicapés. Voilà. Mais c'est un chemin qui est long à faire et qui émotionnellement peut être compliqué pour eux.
La vraie particularité des Ulysse, c'est ce va-et-vient entre la classe d'Ulysse et la classe de référence. Mais sinon, ça répond à la logique de différenciation qui est celle qu'on met en place pour tous les élèves en REP+, parce que spécifiquement en REP+, on est vraiment dans une logique de différenciation et d'individualisation des progressions hein, pour tous les élèves des classes en prenant en considération leurs particularités.
C'est là que je trouve que l'ULIS fonctionne bien ici à Duclos en REPLUS, c'est que du coup il n'y a pas tant de différence avec les autres élèves. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont accompagnés par ailleurs par des AESH, ce qui fait qu'il n'y a pas de stigmatisation ou d'extériorité pour ces élèves-là en fait. C'est des élèves qui sont pleinement intégrés à leur groupe de copains, qui sont pleinement intégrés au groupe de travail également quand il y a des groupes pour faire des exposés ou quoi.
Oui, puis c'est vrai que c'est pas le seul dispositif non plus. On a aussi des UPE2A ou des NSA qui sont pour des élèves primo-arrivants qui viennent d'arriver en France et du coup qui ont un dispositif similaire qui va... Donc les autres élèves sont habitués à avoir des élèves inclus partiellement dans la classe ou pas et ça pose pas spécialement de problème de stigmatisation, effectivement.
Un élève là qui doit rejoindre le dispositif et qui connaît pas trop, tu lui dirais quoi?
Je vais l'expliquer c'est quoi un ULIS, comment apprendre, voilà.
Déjà, je dirais bienvenue. Ça, je dirais comme quoi le dispositif, il aide les personnes en difficulté, par exemple comme moi. Je lui expliquerai tout ce qu'on a dit et voilà.
Au revoir madame.
Ah ouais,
je
te
souviens. Au
revoir.
De la collaboration entre les professeurs et la coordinatrice de l'ULIS à l'adaptation des apprentissages aux besoins des élèves, de l'articulation entre les temps passés en classe entière et ceux passés dans le dispositif à l'accompagnement individualisé précieux dispensé par les AESH présentes dans ce collège depuis plusieurs années, cette journée passée au collège Jacques Duclos nous a permis de comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Cet établissement de REPLUS laisse entrevoir son expertise construite sur le temps long pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. En France, les dispositifs d'unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS, sont plus de 10 000. Cela représente environ 120 000 élèves scolarisés dans un établissement ordinaire bénéficiant de temps en dispositif ULIS avec un ou une enseignante spécialisée. Merci à Myriam Bouvier, Patricia Bégou, Justine Vernier, Benoît Auclair et Adrien Védrenne, ainsi qu'à leurs collègues et au collège Jacques Duclos de m'avoir accueilli pour cette journée stimulante. Merci aux élèves, et en particulier à Rachid et Abdelhakim, de m'avoir permis de les accompagner en classe et d'avoir répondu à mes questions. Et merci enfin à Laurent Gaillard, du réseau Canopée, pour le mixage de l'émission.